contamination.
Porosité.
Contamination.
Circulation.
Communication. Correspondance.
Transport. Transport. D'espace. Transition d'espace.
Espèce d'espace.
Quelque chose de fin. Espace fine.
Ah, tu veux dire en typographie? Espace fine.
Ça me plaît bien, espace fine.
Oui.
Espace fine.
Bonjour Esther.
Bonjour Pascal.
Aujourd'hui nous recevons, finalement quand je dis nous recevons, c'est vrai, on reçoit réellement dans les studios un auteur, Martin Page, et un graphiste web, on peut dire ça comme ça?
Oui.
Samuel Jean. Ils vont nous parler de leur projet d'écriture qui n'est plus un projet puisqu'ils sont en plein dedans et vont nous expliquer tout ça, qui fait l'objet de leur résidence d'écriture à la Marelle en ce moment, janvier-février 2015. Mais peut-être un petit mot sur Martin Page. Il a beaucoup écrit. Son premier livre est sorti aux éditions Le Dilettante en 2001. Et ça s'appelait « Comment je suis devenu stupide ». Ça commence bien. Et il y en a eu un certain nombre comme ça, paru au Dilettante ou ailleurs, « La libellule de ses 8 ans ». On s'habitue aux fins du monde. J'aime bien ce titre-là aussi. Et puis, petit à petit, il est allé aux éditions de l'Olivier, aux éditions du Seuil. Peut-être une histoire d'amour, la disparition de Paris et sa renaissance en Afrique, la mauvaise habitude d'être soi. Il y a des titres qui sont... à eux-mêmes toute une histoire, l'apiculture selon Samuel Beckett. Il a écrit aussi pas mal de livres jeunesse, Le garçon de toutes les couleurs, Le club des inadaptés, La bataille contre mon lit, Plus tard, je serai moi, des choses comme ça. Il a fait une bande dessinée avec des dessins de Clément Fabre, Le banc de touche, ça s'est paru aux éditions Vraoum Varoum. Il a écrit aussi sous pseudonyme des romans, on va dire, de genre, plutôt fantastique, plutôt science-fiction, plutôt même zombie. Il est en train d'écrire un livre sur les zombies, il va nous en parler, sous le nom de Pete Hagerman. Et bon, son pseudonyme a été dévoilé donc aujourd'hui sur les couvertures, par exemple celui que j'ai en main, là, paru aux éditions Robert Laffont. Je suis un dragon, il y a à la fois son nom, Martin Page, et son pseudonyme, Pete Hagerman. Donc tout ça forme une œuvre assez vaste déjà, et assez variée. Je voudrais prendre, pour l'introduire, peut-être introduire un peu l'esprit de cet écrivain, je ne sais pas comment dire, pas le style, mais sa manière d'être, lire un tout petit passage des remerciements qui termine « Je suis un dragon » aux éditions Robert Laffont, parce que j'aime bien sa manière de voir les choses. D'abord, c'est une liste de remerciements qui est assez longue, et on voit tout de suite qu'il a envie de travailler avec des gens et qu'il les met en avant. Il n'est jamais seul, en quelque sorte, quand il écrit, ou autour de ses livres, il y a du monde. Parmi les inventions humaines, les livres sont une des grandes sources d'énergie, de beauté et de plaisir. Raconter des histoires est une des joies de l'existence. C'est un art magique dont je ne me lasse pas de découvrir la force. La littérature est une forme d'action sur nos vies, sur le monde. Et cette phrase est un bel hommage finalement à ce qu'est la littérature pour lui. Et je crois, Esther, que justement pour démarrer cette émission, tu as choisi une autre approche, une lettre que Martin Page écrit à l'intention de qui?
C'est Daria. En fait, c'est une correspondance entre une jeune femme qui veut écrire, qui veut devenir écrivain, et donc lui qui prend la figure de celui qui écrit, qui est déjà publié. Et c'est extrait d'un livre qui s'appelle « Manuel d'écriture et de survie ». Tu parlais des titres qui sont accrocheurs, ça c'est vraiment un titre qui est extrêmement accrocheur. Mmh. Je lisais d'ailleurs ton épaule là, pendant que tu lisais les remerciements, une phrase qui m'a accroché l'œil, qui dit « Je dédie ce livre à toutes celles et à tous ceux qui n'arrivent pas à vivre ». Et entre parenthèses, une citation de Nietzsche, « J'aime ceux qui ne savent pas comment vivre ». Donc c'est effectivement, comme tu disais, c'est pas un style forcément, c'est aussi une manière de vivre, de vivre au quotidien, de vivre avec l'écriture, comment on fait. Voilà. Et ce « comment on fait », il est aussi assez porté sur une forme de fragilité. qui est assumée, une fragilité, une tendresse, quelque chose qui doit être une interface en fait qu'on ne doit pas cacher, qu'on ne doit pas mutiler ça. Donc ce qu'on va écouter là, je trouve que c'est un moment aussi de fragilité pendant la résidence, parce que donc c'est un travail collaboratif. Il y a l'aspect de la création numérique, l'aspect du livre numérique, mais qui avance en même temps que le texte. Donc c'est un moment de fragilité. L'apparition du personnage est là. On est presque dans le. J'arrive pas à savoir si on est dans le moment de la chenille qui se transforme en chrysalide ou la chrysalide qui s'ouvre et qui laisse apparaître le papillon. Et j'ai l'impression qu'on est dans ces deux moments-là à la fois. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans une parole qui se cherche, une écriture qui se cherche, qui ressemble beaucoup à ce que fait Martin Page aussi, même dans ses vidéos, dans ses dessins. C'est des choses fragiles sur le fil du rasoir qui peuvent disparaître si on souffle un peu trop fort. Et en même temps, ça se confronte avec le code, les algorithmes, les mathématiques. Et ça, je trouve que c'est assez osé, c'est assez culotté. Et ça rejoint ce que dit Martin Page aussi, c'est que la littérature doit être partout. Et là, en l'occurrence, voilà, elle est partout. Elle est avec Emma qui apparaît, qui est une personne âgée. Elle est dans cette confrontation avec le numérique. Voilà, donc c'est un beau moment de fragilité.
Et de solidité à la fois. Peut-être qu'on va entendre cette lettre, mais par rapport à cet état dont tu parles, qui est à la fois l'être, chrysalide, papillon, en devenir, et déjà devenu, ou quelque chose comme ça, il termine justement cette liste de remerciements dans ce livre « Je suis un dragon ». Donc c'est vraiment le dernier ouvrage paru de Martin Page, par cette phrase « Il est temps d'être multiple ». Et je trouve que ça lui correspond bien, puisqu'il est multiple, il n'est pas qu'un seul, il a une véritable identité qui est en fait faite de nombreuses, non pas identités différentes, mais formes différentes, et cet être multiple va nous parler.
Et cet être protéiforme ne va pas nous parler seul, car dans les studios, il y avait aussi donc Samuel Jean, qui est là pour la résidence d'écriture numérique, et qui est le comparse, le complice d'écriture de Martin Page dans cette aventure.
Cher Daria, je pensais recevoir ton livre, mais c'est une nouvelle lettre que je trouve ce matin. Une très belle lettre, confiante et lumineuse. Je suis d'accord avec toi. L'art d'écrire est une réplique à la douleur et à l'horreur. Deleuze disait « Le système nous veut triste. Il nous faut être joyeux pour lui résister. » Être un artiste, c'est tenir le coup. Pour beaucoup d'entre nous, le monde est hostile. Il y a une stratégie possible. Nous porterons des coups en devenant intouchables. Le seul moyen de blesser le monde consiste à ne plus nous offrir en sacrifice. Il faut travailler à être présent et absent à la fois, donner des gages de temps en temps, puis disparaître. Le but de l'existence est de rassembler autour de soi des amis, avec qui l'on partage une éthique et un goût pour la conversation, et pour les longs silences savourés en commun. Des êtres avec lesquels on n'a pas besoin de dissimuler notre douceur, notre candeur et notre enthousiasme. Nous nous trompons, nous sommes excessifs, idéalistes, maladroits et naïfs. Mais pour de bonnes raisons. Nous tentons des choses dans nos créations. Nous prenons des risques. Nous refusons de reproduire une recette. Cher Daria, je te souhaite de faire beaucoup d'erreurs, d'emprunter d'innombrables chemins et d'aller là où on ne t'attend pas. Ça ne sera pas toujours simple, pas toujours bien vu. Être vivant est un acte de délinquance. La société fait tout pour nous en empêcher. Le sarcasme est le chien de garde du temps présent. Il faut ne pas avoir peur du ridicule et du pathétique, de la solitude et de l'incompréhension. Nous ne sommes d'aucun groupe. Nous écrivons pour rendre disponibles à nos lecteurs des armes et des formes inédites de vie et de rapport au réel. Notre histoire familiale, notre histoire personnelle et intime, notre place dans l'histoire politique et culturelle du monde, nous donne une énergie pour créer et offrir cette création. C'est notre responsabilité de jouir de nos talents, de dire que la réalité est une matière transformable et que nos vies ne sont pas des sentences. L'art est un art de vivre et de combattre. N'oublie jamais ceci, cher Daria. Le monde est magique et nos pouvoirs sont infinis. Il n'y a qu'une chose à faire, des violences, des jalousies, des dégueulasseries, de tous les coups et des mensonges, les dévorer. C'est notre fin qui nous sauve. Sois généreuse et élégante, sois courageuse et rusée, grandis comme écrivaine et comme être humain. Nous serons toujours perdus et toujours perdants, mais nous avancerons avec l'ambition de conjuguer éthique de vie et ambition esthétique. Nous ne nous interdirons rien. Nous nous réclamons de tout. La désobéissance est là. Projeter nos désirs comme les 8 bras d'une pieuvre et dévorer le monde. À très bientôt. Martin.
Oui, peut-être essayer de lire un texte en animation. Samuel, je viens de me rendre compte que ce n'est pas du tout simple.
Tu as commencé non, à lire. Non, ce n'est pas simple parce qu'il faut attendre que les lettres se mettent en place pour voir les mots et puis commencer la lecture. Bon, j'attends que les lettres se forment et j'y retourne. Aujourd'hui, Emma a 90 ans. Elle a vécu beaucoup de choses, des histoires d'amour, de grandes joies, des bonheurs simples. Elle n'en revient pas d'être encore vivante. Après tout, elle aurait pu avoir des accidents, des maladies, elle a connu la guerre, des guerres. En plusieurs occasions, elle a pris les armes, mais elle est toujours là. Trois choses l'étonnent en ce jour d'anniversaire, être vivante, avoir survécu et de devoir mourir un jour. Emma sourit.
Et là, ça bouge à nouveau, ça recommence.
Et là, les lettres
C'est un peu comme une, nuée, comme une murmuration, c'est nuée des tourneaux, il y a des lettres qui vont dans tous les sens, qui forment quelque chose.
Ça, c'est un des tout premiers textes que tu as écrit, Martin, pour le projet.
Ouais, alors c'est un texte qui va en plus peut-être encore évoluer, parce que Samuel est... Enfin, l'idée, c'était pas d'écrire le texte et ensuite que Samuel l'anime. L'idée, c'était vraiment qu'on... c'était vraiment l'idée d'une co-création, donc les inventions... comment on pourrait dire, graphique de Samuel, ça peut me donner envie de changer le texte, comme le texte évidemment influence Samuel. Donc ce texte, donc, ça parle d'une vieille dame, ça parle de la mort, de la maladie, et l'idée de faire, était de pas faire un texte tragique ni misérabiliste en fait sur ce sujet, au contraire de faire un texte, pas un texte, mais au final de faire une œuvre excitante et un peu psychédélique.
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 Psychédélique grand-mère.
Ouais. Dans quel sens psychédélique est-ce que tu peux développer un tout petit peu
Bien sûr, parce que en fait, cette grand-mère, elle s'aperçoit un jour qu'elle est vieille, elle en prend pleinement conscience et elle choisit de... elle analyse ça d'une manière... pas comme étant une perte de quelque chose, c'est-à-dire une perte d'audition, de la vision, de la rapidité, de santé, tout ça, mais au contraire comme l'entrée dans une nouvelle civilisation, c'est un nouvel âge d'une certaine manière. C'est une nouvelle forme qui n'est en rien comparable avec l'enfance ou l'âge adulte, c'est vraiment totalement autre chose, donc il ne faut pas... Elle ne se réfère pas à sa grande forme d'adulte pour parler de sa vieillesse. Elle dit, bon... Voilà, j'ai un autre rapport à l'audition, j'ai un autre rapport à la vision. Ce ne sont pas des handicaps, ce n'est pas des pertes. Cette audition qui est moins bonne, cette vision qui est moins bonne, de ces gestes qui sont plus lents, en fait, ça induit un rapport au monde qui est très poétique, très imaginatif, psychédélique peut-être aussi parfois. Donc voilà, c'était un peu ça. Cette idée que la perte de capacité n'était pas une tragédie, au contraire, ça lui faisait voir des choses qu'elle n'aurait pas vues en tant qu'adulte.
Ce que j'ai trouvé intéressant dans votre projet, c'est que pour un appel à projet d'écriture numérique, il y a eu quantité de dossiers déposés qui étaient très performant, performatif même, et avec avec une sorte de pas forcément surenchère, mais en tout cas de présence très marquée de la technique et des nouvelles technologies. Et vous êtes parti complètement ailleurs, avec cette vieille dame, avec un monde de sensations, de physique qui a priori rien à voir avec la technique. Et je trouve que c'est vraiment étonnant, quoi. Je sais pas comment vous avez eu cette idée tous les deux, mais...
Ouais, c'était étonnant aussi. Moi, je me rappelle qu'on on cherchait un sujet, on parlait de personnages différents qui pouvaient être au milieu de cette nouvelle. C'est vrai, quand Martin a proposé le personnage de la vieille dame, j'étais étonné, mais en même temps, j'étais aussi content de... Ça me séduisait le fait de avoir ces deux mondes assez différents, la nouvelle technologie, des tablettes, la vieille dame qu'on met un peu de côté par rapport aux nouvelles technologies. Et c'était un bon challenge pour réunir un peu ces deux mondes, ouais.
Parce que je pense aussi que dans tout projet d'écriture, en tout cas pour moi, il y a quelque chose de politique, évidemment. Et donc c'était intéressant pour moi de prendre le contre-pied de ce qui était attendu. Et donc voilà, je pense que politique, c'est pas au sens d'une politique des partis, évidemment, mais de défendre cette vieille dame, de défendre cette vieille dame. On aurait pu passer à côté d'elle, enfin, j'imagine qu'il y a peu de projets numériques qui mettent en scène des personnes âgées, parce que de fait, on les exclut mentalement de ce monde-là. Donc voilà, c'était pour moi aussi important que ça soit elle.
Elle prend des médicaments, sinon ses mains tremblent, ses intestins gigotent, sa tête fait mal, les médicaments servent aussi. Ça y est, ça a bougé, c'est trop tard. Je l'ai lu trop tard, je n'y arrive plus.
Ça revient, ça revient.
Ça revient, oui. Tu connais pas le texte par cœur, Martin ? Les médicaments servent aussi à rendre le monde plus stable, voilà, ouais. Et plus doux. Emma aime bien les médicaments. Elle les considère comme de petits oiseaux apprivoisés qui prennent soin d'elle. Ce sont ses anges.
Alors, on peut peut-être parler aussi de... Juste, je voudrais dire un mot de la manière dont l'histoire s'est construite avec Samuel. Au départ, en fait, on s'est réunis dans un café de Nantes qui s'appelle Les Bien-Aimés, un café-librairie à Nantes. Pâtisserie aussi. La nourriture est importante, il y a un très bon gâteau au chocolat.
On avait dit pas de pub.
Oh, mais là, on peut. Et donc, ça a été, pour arriver à cette vieille dame, pour arriver au sujet, ça a été l'objet de... Enfin, on a pas mal discuté, il y a eu pas mal de pistes explorées. Enfin, voilà, et ça fait partie... J'aime bien cette partie du travail où on vient avec une... Bah, déjà, d'avoir une... C'est vrai que si on n'avait pas vu cet appel à projet, on n'aurait certainement pas fait de livre numérique sous cette forme. Donc il y a quelque chose de très stimulant, en fait, dans les... Alors c'est pas une commande, mais dans le désir des autres, et des associations, et parfois de certaines institutions, ces désirs qui sont un peu lancés comme ça à travers... qui sont lancés, et nous on s'en saisit, et en faire quelque chose, il y a quelque chose de... Enfin c'est vraiment, vraiment stimulant. Donc on s'est retrouvés au café, on a discuté. J'avais pris plein de notes et tout ça. Et c'était. Et c'est une manière de travailler, de commencer à travailler, que j'aime bien. C'est une manière qui ressemble assez à celle que j'ai quand je travaille avec un dessinateur, par exemple, en bande dessinée ou en littérature jeunesse. Et c'est j'adore ces réunions dans les cafés. Ouais.
J'ai l'impression que tu as envie d'explorer énormément de chants et d'écriture et musicaux. Voilà, tu parlais de Colin, ton ami avec qui tu fais des lectures musicales aussi, et vidéo. Esther, toi, tu as récupéré pas mal d'images. Alors évidemment, à la radio, ça ne va pas trop passer l'image. Enfin, je sais pas, techniquement, pas encore. Mais sur ces images, tu as récupéré du son. Il y a plein de petites vidéos que tu as réalisées. Enfin, tout ça, aussi des romans, je dirais, de forme classique et d'autres qui vont explorer les genres.
Dernièrement, c'est un roman de super-héros, par exemple.
Voilà, super-héros. Ouais. Là, je parlais de tout à l'heure, je sais pas si on l'a gardé l'enregistrement de Steve Jobs qui sort de sa tombe. Donc, carrément, tu t'amuses aussi avec le genre zombie.
Je pense que la littérature, ça doit aller partout, mais je pense que c'est une manière, encore au 19e siècle, je lisais un livre de Francis Allais, je ne sais pas si vous voyez qui c'est un spécialiste, c'est un botaniste, naturaliste, spécialiste des arbres, et il a écrit plusieurs très très beaux livres, dont un qui s'appelle L'éloge de la plante. Et il parlait de cette époque où, encore, je crois que c'est terminé au 19e siècle, où les disciplines universitaires n'étaient pas si franchement définies, en fait. C'est-à-dire, quand tu étais botaniste, en fait, tu pouvais quand même t'intéresser à la biologie animale. Aujourd'hui, c'est plus trop possible, apparemment. Mais, et même à la philosophie, enfin, il y avait quelque chose qui était assez, assez ouvert. Voilà, cette séparation des disciplines, mais ça vaut aussi pour les arts. Je pense que c'est de l'ordre de l'amputation. Et que, ouais, touche à tout, mais c'est vrai, enfin, c'est gentil de dire que c'est pas péjoratif, mais ça reste, je pense, ça reste, mais c'est comme Cocteau, par exemple, enfin, c'est, je pense que son côté touche à tout, ça lui a desservi d'une certaine manière, c'est pas toujours très bien vu de faire des choses qui sont pas dans son domaine. Il y a quelque chose de très... on veut qu'on reste un peu dans son champ, qu'on déborde pas, qu'on n'empiète pas. Il y a quelque chose d'un peu scolaire dans cette séparation des disciplines. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment... c'est ce que je disais, je veux que la littérature aille partout. Oui. C'est-à-dire, pourquoi pas un jour écrire un spectacle de marionnettes ou un opéra rock. Peu importe, je trouve que la littérature doit aller partout. Qu'il n'y a pas de domaine... Il n'y a pas de domaine chic, des domaines pas chics. Alors quand je dis ça, je sais bien en fait, qu'il y a des domaines chics. Des... Mais en tout cas, voilà, c'est comme cette séparation entre le populaire et l'élitiste. Je trouve que c'est vraiment problématique. Pour ça, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mon dernier livre, c'est un roman de super-héros. C'est important pour moi aussi d'aller dans cette direction-là et de faire un livre sur Beckett par ailleurs.
Oui, c'est bien de faire des ponts, je pense. Même ce projet qui est un pont entre une grand-mère et le numérique, un pont entre la littérature, le graphisme aussi. On essaie de réunir les deux domaines.
Parce qu'il y a des liens très forts. C'est toi qui me parlais des calligrammes.
Il y a des ponts déjà qui existent déjà dans l'histoire du graphisme, de la littérature. Pour prendre l'histoire aussi de notre projet, quand ça a commencé, on a travaillé pendant presque 2 ans à côté dans un même atelier, sans faire des projets en commun, mais en travaillant chacun de notre côté. C'est vrai que c'est bien tombé cette résidence pour pouvoir réunir un peu ces deux domaines et puis confronter un peu nos rapports au texte, à la lettre.
Pose la question de, en fait, l'influence donc de la technique, de la technologie sur le texte. Est-ce que peut-être il y a un exemple là pendant le temps de résidence un peu parlant que Martin tu pourrais nous décrire, enfin que vous pourriez nous décrire d'une influence directe en fait, d'une modification du texte par par la technique ou la technologie.
Il y a une animation que m'a montré hier soir Samuel. C'est des mots qui sont formés, enfin qui forment des genres de petits ronds au sol. Ça ressemble vraiment à des, je sais pas, des pièces de monnaie au sol. C'est des lettres, des phrases entières qui sont en rond et qui forment vraiment des formes rondes, mais assez peu définies en fait, parce que les lettres ont chacune leur forme. Donc ça, c'est un côté, quand on s'éloigne un peu de l'écran, c'est un côté dessin. Un peu maladroit, ouais, comme des vagues pièces de monnaie qui seraient dessinées sur une planche de dessin. Et voilà, et ces pièces de monnaie, je me suis dit, tiens, voilà, en quoi ça va se transformer, quel genre de phrase ça pourrait donner. Parce qu'il y a toutes, il y a 5 ou 6 pièces, donc il y a plusieurs petites individualités rondes. Et donc, je me suis dit, tiens, il y a certainement quelque chose à creuser là, dans cette direction. Alors, le texte était déjà écrit, ben voilà, Samuel vous le montre. Le texte était déjà écrit, mais je pense que je vais le modifier pour que ça réponde à ces formes, à ces petits cercles isolés, mal dessinés.
En fait, ce sont des cercles qui sont constitués de toutes les lettres...
De la phrase.
De la phrase, ouais. Donc, qui ont un gris plus ou moins prononcé en fonction du nombre de lettres et de la circonférence du cercle.
Oui, c'est ça. Ouais. Ils sont pas ordonnés sur une ligne comme pour... comme on pourrait lire la phrase, ils sont ordonnés de façon circulaire et assez proches entre elles. Donc du coup, ça fait un disque assez dense.
Et donc au départ, il y avait un texte, mais le fait qu'ensuite Samuel a fait ses formes, des ordonnées et tout ça, mais justement, mon texte va changer depuis qu'il a créé ses formes, en fait. C'est-à-dire, mon texte, c'est de la matière... Enfin voilà, c'est vraiment de la matière qui se transforme suivant les réalisations de Samuel, nos discussions et mes inspirations. C'est pas un texte qui est arrêté, qui est sacralisé.
Il y a deux formes. Il y a une forme texte lisible et une forme de texte dessin, en fait. On utilise la lettre comme une matière de crayon, comme de la peinture. Ça pourrait, là, ça fait penser un peu aussi à la machine à écrire, les petits jeux qu'on pourrait faire en dessin avec une machine à écrire.
Martin, est-ce que cette manière finalement d'adapter un texte à une réalité technologique ou artistique ou plastique, est-ce que c'est déjà quelque chose que tu as vécu précédemment avec un autre exemple qui n'a rien à voir avec
non,
le numérique?
Pas vraiment. Bah, parfois j'ai des travaux de commande, mais là c'est plus des sujets. Mais par exemple, je travaille souvent avec des dessinateurs pour des livres jeunesse. Et c'est toujours un projet que j'ai voulu mettre en œuvre, c'est parce que, enfin, classiquement, quand je fais un livre jeunesse, il y a le texte et je le propose à un dessinateur. Enfin voilà, c'est dans ce sens-là. Et j'ai toujours regretté que ça soit pas dans l'autre sens. Moi, j'adorais faire un livre jeunesse ou adulte, peu importe. Mais voilà, qu'un dessinateur vienne me voir et qu'il me dise, j'ai des dessins. Voilà, fais-moi une histoire à partir de ces dessins. Ouais. J'aimerais bien inverser ce rapport. Et là, c'est un peu ça qui se vit, même si c'est dans les deux sens. Et c'est vraiment très 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 excitant, très très stimulant intellectuellement et créativement.
La question du code, en fait, Samuel, est-ce que ça te fait avancer, parce que c'est donc un travail, comme tu disais, qui n'est pas un travail de commande qui t'est habituel, il y a un aspect créatif, artistique, peut-être plus prononcé. Est-ce que ça te fait avancer dans l'écriture du code? Est-ce que c'est quelque chose de l'ordre de la recherche, par exemple?
Oui, à chaque fois, oui. À chaque fois, je trouve et je suis étonné de trouver des nouvelles compositions à travers le code. J'essaie de viser une composition animée que j'ai en tête. Et c'est souvent, je trouve, une série d'animations qui seraient inexploitables. En ordonnant les choses, en animant avec la programmation et quelques langages mathématiques aussi. C'est un peu les deux, c'est la rencontre des cosinus et des boucles de la programmation. Et c'est souvent, on trouve plusieurs textes animés qui pourraient être... plusieurs formes d'animation qui pourraient être exploitables et qui pourraient fonctionner en série. Et c'est pour ça qu'on... Là, on a l'occasion de faire plusieurs pages. C'est un livre, ça reste dans un format de pages, page internet ou page de livre. Et là, on peut fonctionner en série avec des textes animés et des animations qui passent de l'une à l'autre.
Ah oui, mais en fait, c'est... Alors, la rencontre des mathématiques et de... Et de la littérature.
Hein. Et ouais, on a des choses à se dire.
Hein. Ouais, vraiment. C'est deux langages, ouais.
Mmh.
Voilà, rencontre entre Roubaud et Apollinaire, finalement. Peut-être.
Très modestement.
Très modestement.
C'est qu'il y a un texte oulipien quand même. Il y a un texte où on a essayé de partir d'une phrase, d'une lettre, et à partir des lettres, on recompose une phrase, ce qui peut se faire que...
on peut essayer de la lire. Est-ce que tu, Martin, tu veux te prêter au jeu de la lecture de ce texte qui bouge ?
Emma regarde les hommes et les femmes dans le parc. Ils marchent, ils courent. Elle se sent si différente d'eux. Elle aime son esprit flotter. Partir. I'm living in a world of my own, just dreaming. Oh, just dreaming. Voilà, c'est trois phrases que j'ai lues. Je vais peut-être les relire. Et à chaque fois, ouais, les phrases suivantes se composent des lettres qui sont.
Et du coup, qui crée un vide dans la strophe précédente, parce que la lettre disparaît de la strophe précédente pour être utilisée dans la strophe
précédente. C'est assez joli à regarder au-delà. Enfin, je ne parle pas du sens des phrases, mais vraiment, ça donne quelque chose de les lettres absentes qui forment.
Pour relire, il faut relancer.
Alors.
Voilà.
La première phrase, c'est ça. Emma regarde les hommes et les femmes dans le parc. Ils marchent, ils courent. Elle se sent si différente d'eux. Là, à partir de ces lettres, une autre phrase se reforme. Elle laisse son esprit flotter. Et à partir de cette phrase se forme le mot « partir ».
Ce qui est bien aussi, parce que il y a un mouvement, il y a une vitesse de déplacement de ces lettres qui est différente entre la première strophe et la deuxième. Entre la première phrase et la deuxième, c'est beaucoup plus rapide entre du passage de la première à la deuxième, et c'est beaucoup plus lent. Il y a le mot flotter et partir qui surgissent. C'est beaucoup plus lent dans le mouvement. Donc ça joue aussi sur la vitesse et sur votre incitation finalement à provoquer chez le lecteur, à obliger finalement le lecteur à suivre votre propre rythme, celui que vous imposez à la lecture, à l'écriture, donc forcément s'impose après au lecteur aussi à la lecture. On a constaté avec une petite projection collective de quelques exemples, ça vous avait bien plu, j'ai l'impression.
Ouais, c'était bien de voir tout le monde qui lisait le texte en même temps. C'est vrai qu'on peut créer une narration comme on regarde un film. Le texte, c'est pas qu'un pavé de lettres fixes. C'est assez proche en fait de la lecture orale. Il n'y a pas de son, mais on voit les mots qui arrivent les uns après les autres. Donc il y a je trouve ça bien de jouer avec le rythme pour être plus dans un présent.
Je découvre en fait, enfin j'ai vu une petite vidéo qui était postée sur un fameux réseau social. Mais là, je découvre directement sur la tablette et il y a une impression de légèreté, d'élégance aussi, de douceur en fait du déplacement et qui peut-être rejoint ce personnage d'Emma aussi. Après, j'aurais une question à poser pour le prénom, pourquoi le choix de ce prénom. Enfin, et en t'écoutant lire, Martin, juste ces trois phrases. Et la vitesse avec laquelle les phrases recomposent, les lettres recomposent des phrases, il y a une dimension, la dimension du silence. Il y a le creux des lettres qui s'en vont dans chaque phrase pour en composer une autre. Mais il y a aussi cette vitesse-là qui impose des silences dans la lecture, dans la lecture à voix haute. Mais je rebondis sur la séance que vous avez, la séance publique que vous avez faite. Et j'ai pensé à une expression du coup du cœur de lecteur silencieux. Je trouve ça intéressant comme modalité en fait de lecture. Pourquoi pas une lecture collective où en fait on sent la lecture qui se passe dans les corps des gens en silence, mais comme un cœur en fait. C'est relié par ce qui relie les gens dans un cœur qui normalement émettent du son. Donc est-ce qu'on peut émettre de la lecture? Et j'ai l'impression que ça touche quelque chose de cet endroit-là et que la finesse et l'élégance aussi de la typo jouent dans ce sens-là. Et aussi avec le personnage. Enfin, j'aimerais bien revenir sur cette dame, comment elle s'incarne, comment elle est en train de vivre pour vous, qu'est-ce qu'elle, qui elle est, pourquoi ce prénom. Voilà.
Concernant le personnage d'Emma, là, on est toujours en train de créer ce livre numérique, je ne sais pas très bien comment dire. Donc, elle continue à vivre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rendre, en tout cas là dans ce projet, c'est de rendre un personnage qui paraît anodin et de le rendre magnifique, en fait. C'est de montrer quelqu'un de modeste et de le décrire comme un roi, enfin une reine en l'occurrence, mais de le magnifier en tout cas, de pas... là, c'est quelqu'un de très vieux qui va mourir, on imagine, dans pas trop longtemps. Et c'est justement de poser de l'imagination, de la création à cette fin prochaine et de la poésie. Donc il y avait cette idée-là. Ensuite, Emma, le prénom, il est venu... Au départ, elle n'avait pas de prénom. On l'appelait la vieille dame. Mais en même temps, voilà, ça aussi, c'est un truc qui... Je suis dit, si c'était une femme adulte, mal, on ne l'aurait pas appelée l'adulte, quoi. Enfin, il y a un truc... On fait ça que pour les enfants et pour les vieux, justement. Il y a un truc qui cloche. Comme si c'était... Enfin, je sais pas, il y a un truc... Enfin, j'y réfléchis un instant, là, faudra que je creuse. Mais voilà, intuitivement, je me suis dit, bah non, pas la vieille dame, elle a un prénom. Alors, pourquoi Emma? Parce que... Alors ça, c'était intuitif. Il y a plusieurs... raison. Il y a une des raisons, c'est que ma copine Colline et moi, on attend un enfant. Et donc, Emma, c'est un prénom que je voudrais pas, si on a une fille, que je voudrais pas donner à ma fille. Donc, voilà.
Parce qu'il est déjà pris par la vieille dame.
Ben voilà, il est déjà pris par la vieille dame et par, voilà, surtout par Emma Bovary. Mmh. Et surtout, ouais, il y avait encore ce truc, je pense, d'esprit de contradiction chez moi et de sauvetage, je sais pas comment dire. Mais moi, j'aime pas trop, en fait, quand les femmes meurent dans les romans, quand il y a du... Enfin, j'aime pas... Alors, évidemment, j'aime Madame Bovary, Flaubert, etc. Hein, Mais j'ai envie d'aller dans un autre sens, en fait, que les pauvres gens, les gens pauvres qui sont des illusions, qui sont soit forcément malheureux et vivent dans la tragédie... J'avais pas envie, en fait, de continuer cette tradition-là d'une certaine manière. J'avais envie, ben voilà, puisqu'il y a une Emma qui a eu une histoire tragique dans la littérature, je me suis dit, ben moi, en fait, non.
Tu vas la sauver.
Je vais la sauver, ouais. J'ai ce truc de sauvetage. Hein, je vois un psy depuis des années, c'est un grosse névrose chez moi. Mais avec cette névrose, ben voilà, on fait des livres. Mais voilà, j'avais envie de la sauver, de dire, ben non, en fait, Emma, elle a continué à vivre. Et elle a 90 ans. Et elle a un rapport au monde qui est hyper, qui est très excitant et qui est dynamique, voilà.
Qui est dynamique à l'instar des lettres. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui l'enveloppe et qui la crée.
Tu parlais du cœur tout à l'heure, de ce public qui aimait du silence ou de la lecture. Il n'est peut-être pas tout à fait silencieux, en fait. Il y avait des petits frémissements, des petits hochements, des petits rires étouffés à certains. Et voilà, il y a des petites réactions à peu près au même moment. Tout le monde réagissait à peu près au même moment, ce qui fait que vous avez réussi, effectivement, l'exemple le prouvait, à imposer une lecture. partagé par tous à peu près au même rythme. Et ce qui était frappant aussi, c'est, en tout cas c'est ce que moi j'ai ressenti à cette lecture collective, plus encore que sur écran, mais je le ressens aussi sur écran, c'est l'effet, tu as parlé de ça aussi Esther, l'effet physique que ça crée, c'est-à-dire ça provoque vraiment quelque chose par la lecture dans le corps, de l'ordre de la sensation physique.
Ça c'est la force du mouvement aussi, c'est... Donc il y a le graphisme, il y a la composition graphique, mais il y a aussi ce qu'on arrive à faire avec la programmation, c'est le mouvement, et là on a une sensation qu'on peut provoquer à la fois, qui peut être fluide, dynamique, qui peut faire penser à des mouvements du quotidien, et il y a plein de choses à faire passer là-dessus, et on pourrait travailler que là-dessus, qu'avec ces rythmes et ces mouvements circulaires, ondulatoires... saccadé ou... Ouais.
Ensuite, on va travailler aussi les ruptures de rythme. Aussi. Le rythme, c'est aussi des moments qui sont plus calmes, parce que on a pas mal d'animations assez spectaculaires. Hein, et donc, on pense à inventer des moments, moi j'appelle ça des scènes, qui seraient plus minimalistes, plus calmes, pour mieux profiter aussi des moments plus spectaculaire.
Bah oui, on n'est pas habitué à lire du texte tout le temps animé, donc il faut un moment pas aller trop loin dans l'expérimentation, il faut aussi laisser de la place pour plus tard, pour après.
Oui, ça provoque... Il y a quelque chose d'hypnotique, effectivement. Il y a une sorte de... Ça happe le regard, le lecteur. C'est pas toujours que la lecture provoque ça. Une sorte de fascination hypnotique. C'est les images.
Pas c'est, que les c'est images. C'est peut-être la nouvelle façon de lire, en fait. En même temps, j'ai beaucoup expérimenté en faisant des cartes de vœux animées, faire apparaître du texte mot par mot... phrase par phrase, avec un rythme qui est juste pour pouvoir le lire, en fait, et qui, la vitesse et permet juste la lecture au moment où le texte apparaît. Et du coup, ça permet de voir autre chose, de voir le texte, de le lire sans s'en rendre compte, et de voir aussi le texte animé. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu hypnotisant. Ouais.
En tout cas, comme je vois Esther, je crois qu'elle va rester dormir dans le studio. Esther, t'es toujours plongée dans...
Oui, oui, je me pose la question, qu'est-ce que ça peut... Parce qu'en fait, là, j'ai devant les yeux l'extrait que tu as commencé un petit peu à lire tout à l'heure avec Emma et ses médicaments qui servent à rendre le monde plus stable et plus doux. Et déjà, de voir les lettres qui bougent les unes par rapport aux autres, en fait, on se rend compte à quel point certaines lettres sont entre le P, le Q, entre le L qui devient, quand il est tout seul et qu'il est en dessus, il devient un 1. Enfin, il y a une lecture comme ça, il y a des moments vraiment de vrais troubles typographiques... assez intéressant, inédit. Et voilà, la question que je me posais, c'est en termes de lecture. Ça peut aussi donner lieu, enfin je parlais de cœur tout à l'heure, mais une lecture aussi complètement dont les tonalités pourraient suivre en fait, cette espèce de mouvement comme ça, d'onde. Parce qu'elle dit que ses intestins gigotent, mais on a envie de suivre ça avec le ton. Enfin, on a envie de faire une traduction aussi en termes performatifs à peu près tout de suite, quoi.
Oui, là dans cet exemple.
Voire même de chant, voire même dans cet exemple, mais peut-être, par exemple, là où les lettres s'en vont pour former une autre phrase, du coup, on a des lettres, enfin des phrases avec, c'est même plus des phrases, c'est des lettres qui sont difficiles à dire, mais certains travaux poétiques aussi font ça. Est-ce que c'est pas aussi lisible? Même si ce ne sont que des consonnes, par exemple. etc. Enfin, on a envie de s'emparer, en fait, du
Allez-y. non, mais c'est vrai. Mais je pense qu'il y a... C'est vrai que tout à l'heure, je disais qu'il y avait l'idée de contrôler le lecteur et tout ça, manipuler. Mais c'est vrai que la liberté du lecteur, c'est aussi un moment de faire ce qu'il veut, de relire ou de lire, par exemple, une suite de console qui veut rien, a priori, rien dire. Ouais. Quoi.
Là, Tueto Brosbameu, Stomcell, Segamicell, Snocellisuasiam et Repsomat, il sait. Serutiruonas. Et c'est voilà. Drôle.
Enfin, Serutiruonas.
Ouais, voilà.
Tu lis bien à l'envers.
J'ai un petit problème de latéralisation. Voilà, peu importe. Pascal.
Non, mais la typographie, c'est vrai que ça nous intéresse ici.
Oui, ça fait penser à Dada un peu aussi, qui utilisait les lettres comme du son, en fait, comme une matière sonore. Et on retrouve un peu ça en changeant l'ordre des lettres. On trouve une occasion de jouer avec les sons.
Je me demande s'il y a un térémine, par exemple. Ah oui, il y a un térémine, génial. Donc c'est un instrument. Alors là, c'est pas le vrai instrument, mais c'est un instrument inventé par les... par un soviétique dans les années 30. En France, on a les ondes Martenot. C'est un peu étonnant, les ondes Martenot.
Au salon d'Apple.
Ah oui, alors non, mais explique-nous cette histoire de Steve Jobs. Là, tu as mis en ligne un livre numérique, une nouvelle un petit peu,
ouais,
un peu longue.
C'est une nouvelle, c'est une petite nouvelle qui met en scène. Alors, parce que j'ai tout le temps, en fait, des projets, des idées, j'ai tout le temps envie de faire des choses. J'ai écrit cette nouvelle peu après. J'ai écrit un livre de zombies, là, un vrai livre de zombies qui s'appelle La nuit a dévoré le monde. Et donc, j'étais un peu dans l'ambiance. En plus, il y a une série très célèbre en ce moment qui passe à la télé. C'était... Alors, quand est-ce que j'ai eu l'idée de cette nouvelle? En fait, j'ai eu l'idée que Steve Jobs revenait du monde des morts et voilà, et s'attaquait à ceux qui... Enfin, mais je vous laisserai découvrir la suite de la nouvelle. Donc, c'était à la fois faire une nouvelle un peu parodique, une nouvelle parodique de zombies, et en même temps, dire quelque chose aussi, encore une fois, de politique, quant à l'hégémonie de ces entreprises comme Google, Apple, etc., sur nos vies. Et donc voilà, c'était un peu cette nouvelle qui est une récréation. D'ailleurs, elle est en accès libre, elle n'est pas payante du tout. Donc voilà, c'était un genre de petite récréation.
C'est la fin de cette émission Espace Fine et c'est l'heure des remerciements. Et nous voudrions remercier ici
Colline Pierret,
Jean-François Magre,
Roxane Lecomte,
Jimmy Dimpanos,
Fabienne Pavia,
Frédéric Leclou,
Colette Tron,
Guénaël Boutouillet et Louis Burle de la Drac Paca. La prochaine émission, c'est dans un mois, Esther, numéro 5. Ou 6 même, d'espace fine avec...
Numéro 6
Oui, on est déjà à 6.
Tu as préparé quelque chose
Non, rien du tout.
Pascal.
On verra bien. Vous verrez bien avec nous. À bientôt.
À bientôt.
Skeleton, 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 ske